Le plaisir dans le métier, mais la perfection dans le travail, écrit Aristote. Un travail qui procure du plaisir pousse à se dépasser, se dépincer et donner le meilleur de soi. Madame, monsieur, auditeurs et auditrices, sentez-vous salués. Bienvenue sur les ondes de la 105.5 MHz. C'est incontestablement votre émission Interligne qui lit et vous aligne chaque semaine le quotidien et les nouvelles tendances des populations dans la région de l'extrême nord. Au rendez-vous de cette autre livraison de votre émission Interligne, vos trois rubriques habituelles, les incubateurs du Sahel, tape à l'œil et vie de ton sac. La rubrique réservée aux incubateurs du Sahel a déroulé son tapis rouge à une start-up EnviroBiocom, une entreprise qui fait dans la transformation des déchets en compost ici même dans la ville de Maroua. Ousmaïla Sali, responsable de la communication et du marketing de cette entreprise, est au fauteuil de l'invité. Un phénomène devenu à la mode a frappé à l'œil de la rubrique « Tape à l'œil », les appels nocturnes effectués par les jeunes. Qu'est-ce qui peut bien expliquer la ruée des jeunes vers ces appels de nuit? Vous suivrez divers avis à ce sujet. Et puis, Vie de ton sac s'intéresse aux rapports de voisinage souvent tumultueux et parfois empreints de bienveillance. Pour mener à bien cette émission, il y a Maxino à la mise en onde, David Bayan à la supervision générale, Steve Feuby à la réalisation, Lidol Wawa à la présentation. Seulement ceux qui prendront le risque d'aller trop loin découvriront jusqu'où on peut aller. Seulement ceux-là qui prendront le risque d'investir et de se lancer dans l'entrepreneuriat comprendront les réalités et avantages qui en découlent de la mise en place d'une start-up. C'est le cas du jeune Samuel Tamak, ingénieur environnementaliste qui a mis en place la start-up EnviroBiocom. Une entreprise qui fait dans la fabrication du compost. Au fauteuil de l'invité, Ousmaïla Sali, lui-même ingénieur agronome, par ailleurs chargé de communication et du marketing au sein de cette entreprise. Avec lui, nous parlons de cette structure, ses œuvres, ses projets et bien d'autres. L'entretien, c'est dans un instant. Monsieur Ousmaïla Sali, vous êtes le responsable marketing et communication de la start-up dénommée EnviroBiocom. Merci de répondre à nos questions.
Merci, mademoiselle Ludol.
EnviroBiocom, dites-nous, c'est quoi exactement ?
EnviroBiocom, en fait, c'est une start-up qui a été créée en 2019 et qui a été légalisée en février 2021. Et notre entreprise est une SARL, donc Société à Responsabilité Limitée. Et nous faisons principalement dans divers produits et ventes de produits et prestations de services. À la base, nous faisons dans le service de jardinage. Donc si vous avez une maison, je ne sais pas, un endroit où vous voulez implémenter les fleurs et autres, vous contactez notre entreprise, nous faisons dans ça. Nous faisons également dans ce qu'on appelle la plomberie. Donc si vous avez des problèmes de plomberie à la maison, vous pouvez nous contacter et Et comme autre prestation de service, c'est le service de massage. C'est un service qui, c'est vrai que c'est un service qui ne marche pas beaucoup trop, étant donné le contexte où nous sommes. Donc, et par la suite, nous avons les produits. Comme produits, on a les pavés écologiques. Les pavés écologiques, ce sont les pavés fabriqués à base de plastique, des déchets plastiques, quel que soit le type de plastique. On fabrique des pavés avec. Et notre produit principal, c'est le compost. Le compost, c'est un engrais, en fait, engrais biologique fabriqué à base de déchets, que ce soit animaux ou végétaux, par le processus de transformation avec les micro-organismes et autres. Et voilà principalement dans quoi nous faisons.
Ok. Et où est-ce que vous trouvez les produits de fabrication de tout cela?
Oui, les matières premières. S'agissant des matières premières, vous savez, c'est pas facile puisque nous sommes au début des choses et nous n'avons pas assez de fonds. Donc, c'est l'équipe d'EnviroBiocom constituée de 7 associés qui effectuent la collecte. Nous partons nous-mêmes collecter dans les caniveaux, les rigoles et autres, les déchets plastiques s'agissant de pavés. Nous partons chercher les déchets et nous venons produire notre pavé. Notre site de transformation, c'est là-bas à Florina. Et donc, c'est là où nous effectuons nos transformations et nos fabrications.
D'accord. Vous êtes en place depuis 2019, c'est ça?
Oui, c'est ça. 2019. Depuis 2019.
Qui est le promoteur de EnviroBiocom?
Le promoteur s'appelle Samuel Tamak. C'est un ingénieur de travaux de formation et ingénieur de conception également. Actuellement, il est dans ses recherches à Polytech toujours pour le master recherche en fait et en faculté. Et il est spécialisé dans le traitement des déchets. En fait, c'est d'où l'idée même, parce que notre entreprise fait énormément dans la biologie, dans tout ce qui est bio, comme pavé, on vous a parlé des pavés écologiques, et le compost également, l'engrais naturel.
L'équipe de EnviroBiocom est constituée de combien de personnes environ?
Et l'équipe d'EnviroBiocom est constituée de 7 personnes, tous des ingénieurs ressortissants de Polytechnique de Maroua. Et ce sont des ingénieurs qui, certains sont des environnementalistes et d'autres sont des agronomes. Nous ne sommes pas tous sur place actuellement. Et c'est pourquoi notre activité n'est pas totalement en marche.
D'accord. C'est-à-dire que vous avez néanmoins fait des études qui vont vous permettre, ce qui est sûr, de pérenniser votre entreprise.
Exactement. Surtout concernant le côté compost principalement. Moi, je suis un agronome et je suis un spécialiste en agriculture biologique. Et ce qui veut dire que je n'utilise pas excessivement ou pas des intrants chimiques. Donc ma vision est celle de remplacer progressivement l'engrais chimique par le compost qui est un engrais naturel. Donc si nous commençons actuellement à l'extrême nord et qu'on réussit, et pourquoi pas dans l'ensemble du pays.
Êtes-vous structuré? Vous avez un siège? Si oui, où siégez-vous exactement?
Oui, on est structuré. Nous sommes basés à Domayo, juste après le restaurant Le Noumou. Donc, en voulant aller vers le Mayo, vous allez marcher à une distance de 200 mètres environ, juste à côté de la mosquée. C'est à droite, un bâtiment en plan.
Quel est le profil maintenant de votre clientèle? J'ose croire qu'en majorité, ça doit être les agriculteurs. Je peux me tromper?
Oui, exactement. Actuellement, on a seulement les agriculteurs même, puisque c'est le produit qui est en marche, le produit, c'est-à-dire le compost qui est un engrais biologique. Donc le profil de nos clients, ce sont les agriculteurs, les chercheurs dans les universités, parce qu'il y a les chercheurs qui font les recherches dans l'agriculture biologique et ils n'ont pas de compost bien transformé. Du coup, ils nous contactent. Nous avons aussi les ONG, normalement, les ONG qui encouragent l'agriculture biologique. Oui, voilà, en fait, en quelque sorte, le profil de notre client.
D'accord. Et ceux-là sont quand même satisfaits après achat et utilisation de vos produits?
Oui, ils sont satisfaits. Surtout les chercheurs, parce qu'ils ont parfois de bons résultats et ils recommandent aussi aux paysans de venir nous contacter. Et je vais aussi mentionner, il y a même Polytech, mon école, est en train de faire des essais sur le coton biologique, dont ils utilisent nos composts produits localement. Oui. Et ils sont satisfaits des résultats. C'est pourquoi l'année passée, ils ont fait le premier essai. Ils ont eu de bons résultats. Cette année, ils sont encore revenus pour le deuxième essai. Et ils ont augmenté la quantité qu'ils ont pris par rapport à l'année passée.
D'accord. Vous êtes en place depuis 2019, vous l'avez dit. Maintenant, quels sont vos projets à venir, si vous en avez, bien sûr?
Oui, on a des projets à venir, des grands projets, en fait, puisque je vous ai cité les produits principaux que nous faisons, mais dans nos projets, nous envisageons, en fait, être pragmatique, quoi, c'est-à-dire nous-mêmes nous utilisons nos produits, c'est-à-dire le compost, nous produisons avec le compost, nous montrons l'exemple aux paysans, en fait. On prévoit, comme la campagne de la culture maraîchère qui vient, nous avons un projet qui va faire dans les pépinières, donc nous allons produire des pépinières biologique pour vendre le moment venu aux agriculteurs, aux producteurs. Et voilà le projet qui est actuellement sur la table. Mais sinon, dans l'avenir, on a des projets qui va dans le sens d'extendre notre entreprise. C'est-à-dire, nous avons un projet à Yagoua. Nous voulons implémenter un autre siège là-bas parce que on a vu des avantages qui se sont présentés du côté-là. Et voilà, en quelque sorte, les deux principaux projets qui sont proches.
Comment ou alors, qu'est-ce qui est fait pour pérenniser votre start-up qui, vous l'avez dit, pour le moment, ne marche pas encore trop bien?
Actuellement, en réalité, ça ne marche pas, comme je vous ai dit, parce que on a des problèmes de vente. Parfois, nous produisons et on ne vend pas totalement ce qu'on a produit. Et donc, du coup, le problème vient du fait que les agriculteurs ne sont pas sensibilisés, et les paysans, je veux dire. Et aussi la pénibilité du travail, parce que, je ne vous mens pas, pour amender un quart, disons un hectare, il va falloir environ 5 tonnes, donc ça varie de 100 à 10 tonnes en moyenne. Et c'est en fonction du type de sol et autres. Et donc, du coup, chercher 5 tonnes de compost pour un hectare, pour un paysan, ce n'est pas évident. Parce que le transport, l'état des routes, et la pénibilité du travail, et même l'argent pour acheter les 5 tonnes-là, puisque nous sommes en train de vendre un sac de 50 kilos à 10 000 francs. Et donc, vous voyez que c'est une tonne, c'est 20 sacs. Donc, si vous calculez 10 000 fois 20 sacs, c'est beaucoup d'argent, quoi. Alors qu'avec 20, bon, disons actuellement, c'est dans les 40 000 environ, ils ont leur engrais chimique Voilà, en fait, en quelque sorte.
Dites-nous, quelles sont les différentes difficultés auxquelles vous faites face?
Les difficultés qu'on fait face, principalement sur le financement, moi je vous dis, je m'attarde beaucoup plus sur ce point parce que, étant donné que nous sommes nouvellement créés, on n'a pas eu de subvention. Une subvention en tout cas qui va nous pousser, qui va changer notre chiffre d'affaires. Tout ce qu'on fait actuellement, c'est ce que nous-mêmes les associés, on a cotisé et les ventes qu'on fait avec les petits revenus qu'on a souvent, on réinvestit encore et nous avons également des difficultés dans le sens où certains des membres sont encore à l'école. Donc parfois les activités sont en ralenti vu qu'ils sont occupés à l'école, ils ne peuvent pas être présents, disponibles. Oui. Et nous avons aussi des problèmes dans le transport. Le plus grand problème sur le transport, parce que il y a certains qui disent que comment est-ce qu'on va faire si on a des commandes à une grande échelle, disons. Quelqu'un vient comme ça et dit que je veux que vous me produisez le compost et que j'ai 500 hectares. Donc ça demande énormément, beaucoup de matières premières. Mm-hmm. Et donc si on a un moyen de transport à notre disposition, il y a assez de matières premières. Vous savez, nous sommes quand même dans le Grand Nord. Mm-hmm. Et donc les déchets ménagers comme animaux sont énormément disponibles, donc il faut seulement avoir un moyen de transport et aussi si nous pouvons aussi avoir des relations, en tout cas des partenariats avec les abattoirs et autres, ça va encore beaucoup aider et augmenter la disponibilité des matières premières.
Comment comptez-vous faire? Qu'est-ce qui est prévu donc pour résoudre ce problème?
Oui, actuellement, nous sommes en train de discuter en équipe, que ce soit sur WhatsApp, parfois avec les réunions et autres. Nous sommes en train de vouloir adapter une stratégie de marketing qui va vraiment prospérer l'entreprise. Nous envisageons réduire le prix, le prix de notre produit. Donc nous sommes en phase de discussion, nous sommes en train de voir quel prix adapter, comment s'infiltrer, en tout cas comment amener les paysans, les producteurs et autres à utiliser le compost. Nous offrons, quand vous venez sur ça, quand vous venez acheter nos produits, nous vous attribuons un spécialiste dans l'épandage, le suivi et évaluation de l'efficacité de notre produit gratuitement, tout cela. Donc, juste pour les amener à venir acheter. Donc, on vous donne un ingénieur de conception, un agronome. Moi-même, je fais partie de cette équipe. Donc, nous partons ensemble, on épand, parce qu'il faut suivre beaucoup de règles pour réussir. Il faut bien épandre avant les premières pluies et labourer le sol. Ensuite, dès que la pluie va venir, l'engrais va vraiment adhérer et tu auras un bon rendement à la fin. D'accord. Voilà ce qu'on a prévu faire actuellement.
Si jamais on doit vous venir en aide, si jamais une autorité quelconque, un homme d'affaires ou un philanthrope simplement nous écoute, quelles seront vos doléances?
Nos doléances par rapport au bailleur de fonds ou au potentiel, c'est pas trop accompagnateur, c'est de nous accompagner, en fait, de subventionner nos travaux, puisque les travaux sont pénibles et ça demande beaucoup de main d'œuvre. Donc, si nous réduisons le prix de nos produits à un certain niveau, et nous allons perdre. Donc, quand nous évaluons le coût de production, et nous serons dans les pertes. Donc, notre doléance, c'est que les bailleurs de fonds nous subventionnent pour qu'on puisse réduire le prix, et au prix derrière, en fait, pour que le paysan achète franchement la quantité qu'il faut pour un hectare et que ça ne le touche pas beaucoup et que ça ne soit pas trop différent avec l'amendement chimique, avec la fertilisation chimique, autant pour moi. Donc voilà notre doléance, l'accompagnement, la subvention.
Maintenant, comment faire lorsqu'on veut vous contacter? Votre start-up a-t-elle sa page Facebook, WhatsApp ou un numéro quelconque?
Oui, pour nous contacter actuellement, nous avons un contact. Le contact qui passe 24 heures sur 24. Et c'est même plusieurs contacts en fait. Il y a le contact de l'entreprise, il y a aussi le contact des membres parce que nous sommes ouverts. Vous pouvez nous contacter à tout moment. Et on va répondre à vos appels et à vos besoins. Et le contact téléphonique, si faut citer le numéro ou quoi, je ne sais pas. D'accord. D'abord, il y a mon numéro, le 655. Deux fois, c'est-à-dire 55-55-0209. Ça, c'est mon numéro orange. Il y en a aussi MTN 652-88-03-33. Donc, 52-88-03-33. Toutefois, vous pouvez également contacter des numéros que je vais vous citer actuellement. Donc, c'est le 694-80-64-33, 694-80-64-33. Et voilà les numéros qu'il faut contacter. Donc ça ne vaut pas la peine de citer les numéros de tous les membres. Donc,
dans les deux numéros.
Oui, peuvent largement suffire.
Des jeunes nous écoutent. Certainement. Quel message pouvez-vous leur adresser à ces jeunes qui traînent encore les pas, qui attendent encore l'État, qui attendent forcément les travaux de l'État?
En tant que jeune, ce que je veux dire aux jeunes comme moi, c'est d'être fort, d'être créatif, d'avoir l'esprit innovateur. Il faut innover. Il ne faut pas attendre l'État. L'État, en réalité, normalement, on ne devait pas compter sur l'État. Normalement, on devait avoir les idées d'entrepreneuriat, les idées qui, avec lesquelles, quand vous allez finir votre cursus, je sais pas, que ce soit académique ou scolaire, vous allez créer, vous allez vous auto-gérer, c'est-à-dire voir qu'est-ce que je peux faire. Parce que on est dans notre pays n'est pas encore développé, et surtout l'extrême nord, il y en a assez d'opportunités. Donc il suffit juste de penser et d'implémenter. Il ne suffit pas de dire que on se plaint toujours. On dit que l'État n'a pas. Et l'État lui-même là, s'il faut se plaindre, il va se plaindre chez qui? Donc, moi, je vois que c'est nous le plus grand problème parce que on ne veut pas nous-mêmes, en tout cas, on ne veut pas compter sur nous-mêmes. On veut toujours compter sur quelqu'un. Et c'est ce qui n'est pas bien, c'est ce qui nous rend paresseux, ce qui nous rend moins pensifs. En fait, c'est ce qui nous rend même, je vais dire simplement paresseux, comme je viens de le dire.
Monsieur Ousmaïla Sali, vous êtes le responsable de service marketing et communication de la start-up Enviro Biocom. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions.
C'est moi qui vous remercie.
Enviro Biocom, une initiative d'un ingénieur environnementaliste, Samuel Tamak, une initiative à copier, il faut le dire, par nombre de jeunes. Car malgré la volonté que peut avoir l'État pour recruter les jeunes, il ne peut prendre tous ces jeunes. Dans un contexte de manque d'emploi, l'entrepreneuriat ouvre ses portes à tous et à toutes afin de ne plus sombrer dans l'oisiveté. L'entrepreneuriat donne ainsi l'opportunité aux jeunes de montrer leur génie créateur. en journée l'on est occupé, si en journée l'on vaque aux occupations, la nuit vient et sonne l'heure des appels nocturnes aux heures tardives effectuées par bon nombre de jeunes. Nombreux sont ceux-là qui optent pour ces heures pour diverses raisons. La fluidité du réseau à ces heures, la tranquillité pendant la nuit, le coût abordable des appels téléphoniques sont entre autres les motivations de plusieurs jeunes. Toutefois, il y a cette catégorie de jeunes qui, eux par contre, n'effectuent et n'apprécient pas les appels de nuit. Pour ces derniers, la nuit est faite pour se reposer et non effectuer des appels à n'en point finir. Écoutons quelques jeunes à qui nous avons tendu notre micro.
Les appels nocturnes, là moi j'aime plus ça. Parce que là le réseau passe un peu simple, ça ne dérange pas, il n'y a pas de problème de réseau. Et là, je me divertis aussi plus, ça m'aide aussi à plus passer le temps.
Je n'apprécie pas trop les appels nocturnes parce que la plupart du temps, je dors tôt. Et même quand je ne dors pas tôt, je travaille aussi. Et je trouve que ces appels nocturnes-là n'ont pas trop leur place dans ma vie parce que j'ai d'autres objectifs. Lorsqu'une personne veut m'appeler, elle peut m'appeler en journée. Parce que la plupart du temps, à partir de 21h, moi, je ne prends plus les appels. Je trouve que c'est déranger les gens.
En fait, même nous, souvent, ça nous dérange, mais on n'a pas le choix parce que c'est devenu déjà un milieu quotidien. Là où nous vivons tout le jour, ça devient déjà une seconde nature. Au contraire, quand nous quittons même ce milieu pour aller peut-être dans des zones périphériques ou bien des zones enclavées, nous nous sentons mal à l'aise parce qu'il n'y a pas de bruit là-bas. En quelque sorte, c'est ce que nous avons comme idée à vous partager.
C'est le temps sans causer avec les amis. Donc, là, toute la journée, peut-être je suis occupé. Dans la nuit, c'est le temps pour moi, quand je vais me reposer, là, c'est le temps pour moi pour causer avec eux.
Comme beaucoup d'autres jeunes, j'effectue bien évidemment les appels nocturnes parce que on suppose quand même que les appels nocturnes, la nuit c'est le moment où c'est le moment favorable pour effectuer des appels, pour le moment où on est plus calme, le moment où on n'est pas assez perturbé pour parler à celui à qui on parle au téléphone bien évidemment. Donc et c'est le moment où on est loin des perturbations, on a assez d'idées. Où on est inspiré. Vous savez que les appels nocturnes ne s'effectuent pas avec n'importe qui. C'est très souvent avec nos petites chéries. Et donc, c'est le moment où nous puisons de l'inspiration. Nous trouvons les mots qu'il faut pour leur dire. Voilà. Voilà pourquoi est-ce que je choisis d'effectuer des appels la nuit.
Moi particulièrement, je n'aime pas les appels de nuit. Ça dépend, sauf si peut-être c'est mon papa ou bien ma maman qui m'appelle. Mais à une certaine heure, à partir de 21h, je peux voir l'appel entrer, mais je ne prends pas, juste comme ça. Bon, pour moi, la nuit, c'est fait pour dormir. Non, ça me dérange en fait de causer, tout en sachant que les autres sont en train de dormir et puis moi je suis au téléphone. C'est pas bien. Je préfère dormir pendant la nuit et puis si tu veux m'appeler, tu m'appelles peut-être en journée. Si c'est les messages, je peux répondre, mais les appels, je n'aime pas.
J'aime bien les appels de nuit parce que c'est le moment où je suis posée, je n'ai pas d'activité à faire, où je peux causer normalement, où je n'ai pas d'activité quoi. Donc je suis plus concentrée à ce moment-là, donc je peux m'entendre avec l'interlocuteur et c'est tout.
Venez de nous rejoindre et bien sachez que vous êtes sur la 105.5 MHz à l'écoute de votre émission Interligne. Ils cohabitent avec nous dans le même quartier, le même secteur, voire la même concession. Et pourtant, nous ne les avons pas choisis. Entre litiges et nuisances, les relations entre voisins ne sont pas toujours évidentes. Et aujourd'hui, le voisinage rime bien souvent avec problème. Pourtant, les liens avec ceux et celles qui vivent près du chenou peuvent se révéler source de solidarité et d'entraide. Sur la question de la relation du voisinage, je vous propose d'écouter quelques avis.
Moi et mes voisins, nous comportons vraiment très bien, c'est vraiment pacifique. À chaque matin qu'on se lève, on se salue. S'il y a de nouvelles à communiquer en cause, notamment les cérémonies peut-être de mariage, de baptême et autres. Donc, le matin quand on sort, comme de coutume, nous saluons, nous dialoguons sur le programme peut-être de semaine et autres. S'il y a des nouvelles qui sont passées la nuit également, en cause, cela. Nous effectuons souvent des visites, souvent inopinées chez nos voisins, pour voir l'état de santé, comment est-ce que les enfants se portent et autres. Donc nous faisons également des visites, nous rendons visite à nos voisins, comme eux également viennent chez nous pour nous rendre des visites.
Puisque je suis quelqu'un de simple et je n'aime pas les conflits avec les voisins, donc je n'ai de problème avec personne.
Le voisinage est une relation pas à négliger parce que dans la plupart des cas, le voisin, c'est lui qui intervient beaucoup pour toi. Bon, plus ou moins, nous avons des bonnes relations tout le temps. Et certes, je ne suis pas tout le temps là à la maison, mais on a quand même des bonnes relations. J'évite à tout prix de ne pas avoir des différends avec eux. Et quand bien même il y en a, on essaie de les régler dans des bons sens.
De mon point de vue à moi sur la question des relations que j'entretiens avec mon voisinage, plusieurs possibilités s'offrent à moi. Mais je commencerai par l'opinion de ce philosophe qui disait que l'homme est ondoyant et divers. Alors, de par cette logique et de par mes aptitudes à avoir collaboré avec des personnes d'attitudes et de comportements divergents, alors je peux dire ceci. Pour moi, c'est que l'être humain étant une personne vraiment intéressante, alors, il faudra plutôt avoir cette attitude de relativiste, c'est-à-dire tolérer tout un individu selon son attitude et selon son comportement et selon ce qu'il advient de la personne. Alors, de par cette divergence, moi, personnellement, je prends les gens comme ils viennent. C'est-à-dire, si, pour éviter, parce qu'il y a certaines personnes qu'en les côtoyant, on les met mal à l'aise. Ok, donc, pour éviter toutes ces choses, il faut laisser à la personne la liberté, soit de venir vers ou soit de s'en éloigner. Alors moi, si je trouve quelqu'un qui est plutôt ouvert avec moi, je m'ouvre à lui. Si je trouve une personne refermée, je me referme également.
Mes voisins ont une relation trop compliquée et un peu mitigée. Parce que le fait de rester dans ce quartier-là m'énerve. Il y a quand même bonjour, bonsoir, mais malgré moi, on peut dire comme ça. Ce n'est pas volontaire. Autre là, c'est beaucoup fait là. Rester avec eux, causer avec quelques minutes seulement, c'était fini.
Voisine et moi, on entretient des relations, je peux dire quoi, de courtoisie, de bonnes relations quoi. Parce que je n'ai jamais eu des querelles avec mes voisines, même s'il y a souvent des différends entre nous, peut-être parce que l'autre n'a pas fait ci ou bien l'autre a dit ci à l'insu de l'autre, mais dans la plupart des cas, on s'entend régulièrement bien.
Bien s'entendre et se comporter avec nos voisins peut grandement faciliter la vie. En cas de problème, nos voisins sont les premiers secouristes qui interviendront si jamais la relation qui lie ces derniers est d'ordre pacifique. Bien qu'il ne soit pas toujours évident de s'accommoder avec certains de nos voisins du fait de l'éducation et des habitudes de tout un chacun, nous nous devons de bien nous comporter avec nos voisins. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Nous ne nous sommes pas retrouvés par hasard car c'était un rendez-vous donné et honoré qui, pour l'heure, s'achève. Pour ceux et celles qui n'ont pas eu à nous écouter dans l'intégralité, sachez que nous nous sommes intéressés dans la rubrique Les Incubateurs du Sahel à l'entreprise EnviroBiocom, une entreprise qui fait dans la fabrication du compost et sert d'engrais dans les champs et est utilisée par plusieurs études des chercheurs. Mise en place par Samuel Tamak, ingénieur environnementaliste. Ousmaïla Sali, chargé de communication et du marketing dans ces structures, répondait à nos questions. Les jeunes et les coups de fil nocturnes, on en a parlé dans Tape à l'œil. Et la rubrique Vie de ton sac, quant à elle, s'intéressait à la relation qui lie très souvent les différents voisins. Avant de clore complètement avec cette émission, nous disons merci à Maxino qui a assuré à la mise en onde. Merci à Steve Feuby qui a réalisé cette émission. Merci à David Payan qui assure à la supervision générale. Merci à vous également, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir suivis. Je suis Lidol Wawa à la présentation. Bonne suite à l'écoute des programmes de Radio Océré qui se poursuivent. Bye bye.